France Inter, le 18-20.
Nous, on ne se rend compte de rien quand nous les valides, quand nous n'avons aucun problème lié à des maladies musculaires, rien d'handicapant. On n'imagine pas ce que c'est quand on ne peut pas prendre les transports en commun puisque rien n'est adapté ou presque, quand on n'a pas réellement le choix de son habitation puisque tous les logements ne sont pas accessibles, loin s'en faut, et même pas les neufs. Quant à l'accès au travail, il est freiné par parfois un niveau d'études trop bas, simplement parce que l'accès aux études est rendu difficile et parce que les employeurs restent frileux. On oublie que la loi, sauf amende évidemment, dit théoriquement qu'à partir de 20 salariés, une entreprise doit employer 6% de personnes handicapées. Je parle sous le contrôle de mes invités. Vous nous donnerez des chiffres tout à l'heure. Le handicap, en tout cas, devait être une grande cause. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron. Deux ans plus tard, la déception est là et c'est ce qu'on a entendu cet après-midi à Paris lors d'une manifestation au terme de 7 jours de campagne. Déception, ça veut dire, disent les chiffres, que 89% des personnes handicapées n'ont pas confiance dans le gouvernement pour mieux prendre en compte leur situation tous les ans et à chaque fois, on dit qu'il faut mieux faire et tous les ans nous sommes là. Peut-être que les JO permettront d'accélérer les choses, on y viendra tous ensemble également. Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Sylvie, c'est vous la première. Soyez la bienvenue Sylvie et bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute Sylvie.
Oui, je vous appelle parce que moi j'ai un fils qui a eu son bac avec mention très bien, bac S avec mention très bien, 20 en maths. Je devais l'inscrire au parcours APB et puis j'ai quand même téléphoné au prépa public en leur demandant s'ils avaient ils accepteraient un enfant handicapé. Il a la maladie de Little et on m'a déconseillé en me disant que la pression serait trop forte, qu'il n'y avait peut-être pas d'ascenseur. On habite à côté de Dauphine. Il a été refusé à Dauphine, donc j'ai fait appel. On m'a dit non, c'est l'algorithme. Et ce que je regrette, c'est que mon fils donc a dû partir en Suisse pour faire l'école polytechnique de Lausanne. Il est brillant. Simplement, il a dû quitter la maison, se séparer de sa famille, de ses amis, pour pouvoir continuer des études brillantes. Donc, ce que je regrette, c'est que oui, dans des entreprises, il y a des quotas. Il devrait aussi y en avoir dans les universités. Pour des enfants qui travaillent comme des fous, beaucoup plus que les autres, parce que c'est compliqué pour eux d'écrire, et puis ils ont des problèmes dans l'espace et tout ça, mais ils font des études brillantes, voilà.
Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Vous parlez de quotas, mais pourquoi pas aussi là pour le cas de votre fils, une vraie accessibilité. Au fond, pour répondre à votre question Sylvie et pour discuter ensemble jusqu'à 20h, Patrick Goé est là. Bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Adjoint du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Et bonsoir Prosper Teboul, vous êtes directeur général de l'association APF France Handicap. Qu'est-ce qu'on répond à Sylvie sur deux niveaux? Parce qu'effectivement, il y a comment on fait, faudrait-il en fait mettre des quotas à l'intérieur de certains cursus universitaires? Et puis là, on parle aussi d'accessibilité. Enfin, je dirais, est-ce qu'on a le droit, quand on est une grande fac, là en l'occurrence je pense à Dauphine, mais d'autres aussi, de dire, ah ben, on s'excuse, mais ça va être compliqué pour votre fils? Prosper Teboul, pour commencer.
Oui, malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, Sylvie décrit une triste réalité. Ça fait écho, je ne connais pas spécifiquement la situation du fils de Sylvie, mais ça fait vraiment écho à une situation qu'on a connue il y a très peu de temps, au sein d'une grande école parisienne, où effectivement une jeune étudiante, brillante, à un moment donné de son cursus, au tout début de son cursus, s'est vue refuser la poursuite dans cette grande école de ses études, tout simplement parce qu'elle était en fauteuil et que plusieurs salles de cours étaient en étage sans ascenseur. Il a fallu, et là pour le coup, la complicité avec le Patrick Goé et le Défenseur des droits, on a saisi le Défenseur des droits et ce sont les autres profs qui ont manifesté auprès de leur direction pour dire que c'était pas tolérable. Donc effectivement, c'est une situation qui est assez récente et qui fait vraiment écho à ce que vient de décrire Sylvie par rapport à son fils. Donc c'est un véritable problème d'accessibilité, l'accessibilité à la formation, l'accessibilité aux soins, l'accessibilité à l'emploi. On est vraiment dans cette même boucle infernale.
Patrick Goé, faudrait-il effectivement qu'il y ait dans ce genre d'établissement scolaire des quotas du même ordre que l'entreprise finalement pour que les écoles, les facs soient obligées d'accepter des étudiants comme le fils de Sylvie, quoi qu'il en soit, parce que le niveau, le fils de Sylvie, là-dessus, il y a pas de problème, il l'a.
La réponse par le quota Bonjour d'abord et merci pour votre invitation.
Et bonsoir à vous bien sûr.
La réponse par le quota, c'est une phase transitoire. Mmh. Car en réalité, il y a handicap lorsque la société n'est pas adaptée. Donc, il est indispensable pour répondre à un problème comme celui qui nous est soumis à l'instant. Mais pour répondre à beaucoup d'autres, il faut que réellement il y ait de la part de l'État français, au-delà de ce qui a déjà été fait jusque-là, car on ne peut pas dire que rien n'a été fait, il faut qu'il y ait une politique globale consistant à rendre accessible à l'ensemble de la population qui manque d'autonomie ou qui en perd. Car entre parenthèses, quand on rend les choses accessibles, c'est du mieux-être pour tout le monde. Mmh. C'est très important de mettre ça dans la... Alors, qu'il faille être solidaire, qu'il faille adapter les choses pour que celles et ceux qui n'ont pas accès puissent avoir accès, certes, mais il faut que ce soit une politique globale résolue de la part de l'État. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir. On pourra, au cours de l'émission, traiter d'un autre exemple, c'est celui du logement. Mais pour revenir à la première question, elle est fondamentale, parce que ça concerne la jeunesse, parce que ça concerne la préparation des esprits qui, demain, auront des responsabilités à la question de l'accessibilité.
Et c'est fou, parce que je vous entends, j'entends la déception, effectivement, parce qu'Emmanuel Macron était arrivé il y a 2 ans avec beaucoup de promesses, mais il n'est pas le seul, réellement. J'ai l'impression que on aurait fait ce téléphone sonne l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on disait finalement la même chose. La politique globale dont parlait Patrick Gohé, est-ce que ça a existé à un moment ou à un autre, Prosper Teboul?
Alors oui, je voudrais pas être passéiste, il faut dire qu'effectivement la déception est à la hauteur de l'ambition qui a été affichée juste avant les présidentielles et lorsque le président Emmanuel Macron a joué sa carte blanche, hein, quand je dis jouer, en mettant en valeur le handicap. Donc c'est normal qu'on y ait cru et je dirais qu'il y a quand même des mesures qui ont été prises. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, etc. On est extrêmement déçus aujourd'hui et vous l'avez dit en préambule avec justement l'enquête qu'on a conduite avec l'IFOP qui est quand même assez lourde en termes de résultats.
89% qui n'ont pas confiance dans le gouvernement, 87% qui pensent qu'il n'y aura pas d'amélioration dans l'accessibilité.
Et 43% qui estiment que leur situation s'est dégradée. Donc si vous voulez, par rapport aux attentes et à l'affichage, effectivement, on voit aujourd'hui un profond mal-être et essentiellement du côté des ressources. Du côté des ressources, c'est que 82% des personnes en situation de handicap déclarent s'en sortir difficilement avec les ressources du foyer.
Avec donc, pourtant une allocation adulte handicapé qui a augmenté.
Bien sûr.
Pas suffisamment et pas pour tout le monde surtout,
oui, c'est ça l'idée. Voilà, c'est une mesure qu'on a applaudie, une augmentation de
40 euros.
Exactement, de 90 euros, ce qui était annoncé totalement pendant la campagne par Emmanuel Macron. Donc très clairement, c'est une mesure un peu, on est satisfait dans un premier temps, mais c'est une mesure en trompe-l'œil, tout simplement parce que sur un petit peu plus d'un million d'allocataires de l'allocation adulte handicapé, on a 300 000 personnes qui sont exclues de ce dispositif pour des raisons qui interrogent, notamment lorsqu'on les ressources sont calculées pour un couple. Cela veut dire tout simplement que le choix de vivre en couple pour une personne en situation de handicap est conditionné par la hauteur du salaire du conjoint. Qui peut admettre cela ?
Sachant que je vais rajouter un chiffre par-dessus, 19% c'est le taux de chômage des personnes handicapées, ce qui est évidemment...
plus de 500 000 personnes.
Plus de 500 000 personnes, ce qui est évidemment très largement supérieur à la moyenne nationale. Avant qu'on retourne au standard, je voudrais revenir un instant sur le témoignage de Sylvie. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, combien de jeunes gens en situation de handicap abandonnent leurs études, ne vont pas au bout ou renoncent à faire même des études simplement parce que il n'y a pas d'adaptation possible, parce qu'il faudrait un certain nombre de choses qui n'existent pas dans les facs et les écoles. Est-ce qu'on sait ça? Le taux d'abandon, est-ce qu'on les connaît, Patrick Gohé?
On n'est pas en mesure d'en faire le total, mais sur le total des saisines qui nous parviennent, des situations comme celles qui viennent de nous être exposées sont des situations que l'on nous demande d'aider. Et c'est important de dire que tout cela En plus, les sujets que l'on va voir par la suite, on parlera certainement d'emploi, on parlera de beaucoup de choses comme ça, fait que, et je tiens à le dire au début de l'émission, le handicap est la première cause de saisine du défenseur des droits. Hein, c'est 23% de nos saisines. Et c'est d'abord dans l'emploi, mais c'est aussi dans l'accès à l'école. La situation qui vient de nous être soumise, c'est une situation que l'on a connue pour un certain nombre d'étudiants qui nous ont saisis, et nous avons trouvé des solutions.
Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire que ça marche quand on vient vous chercher, vous le défenseur des droits, subitement, des solutions, voilà qu'on en trouve, visiblement.
Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot.
On a bien compris.
Il faut entrer en contact avec les interlocuteurs qui sont incriminés. Nous sommes des médiateurs, donc on s'emploie à arranger la situation, pour que le droit de cette jeune personne à l'éducation, à la réussite scolaire, à la réussite universitaire soit respecté. Alors, ce qui est important, puisqu'on en est là,
allez-y,
c'est de dire que on peut nous saisir soit en nous écrivant. Soit en utilisant le moyen qui est prévu sur le site internet, soit en rencontrant un de nos délégués, sur le terrain. Et sur les 550 délégués que nous avons, nous en avons une centaine qui sont généralistes, mais qui en plus sont des référents handicap.
Alors c'est peut-être le sens de la question de Martine. Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Allez-y.
Merci. Mais tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure votre intervenant au sujet de l'accessibilité. Je pense que si les valides étaient conscients des bénéfices qu'ils ont eux-mêmes à tirer d'une avancée sur l'accessibilité, ça avancerait peut-être plus vite. Parce qu'en fait, dès qu'on aménage un trottoir, ça sert aussi aux personnes âgées, aux mamans avec poussette.
Évidemment.
Donc, moi, mon intervention, c'était autour de l'accès à l'information. Moi, je suis bénévole dans une association qui accompagne des personnes en situation de handicap psychique. Et mon frère se trouve depuis quelques années en fauteuil. Le constat que nous faisons, c'est qu'il faut des années à une personne handicapée ou à sa famille pour avoir connaissance de ce qui existe sur son territoire en termes d'associations, de professionnels, de bénévoles, mais aussi pour les services institutionnels, et qui pourraient grandement améliorer leur quotidien. Mon frère, quand il s'est trouvé sur fauteuil, il lui a fallu 3 ans pour que, tout à fait par hasard, son kiné lui informe qu'il y avait une association qui était en mesure d'assurer un transport et donc il pouvait recommencer à imaginer faire du sport et retravailler. Au bout de 3 ans pendant lesquels il a vu des assistantes sociales, des médecins, des services hospitaliers, personne n'est au courant de rien.
Merci.
Donc dans mon association, on avait envisagé de créer justement une plateforme, et bon, on n'a pas eu les moyens de le faire, mais il faudrait que au moins dans chaque département, il y ait une plateforme qui permette de rassembler toutes les ressources qui peuvent venir en aide aux personnes qui sont en situation de handicap.
Merci.
Savoir pour pouvoir avoir accès aux droits.
Merci beaucoup Martine, elle a raison Martine Prosper-Teboul. C'est fou d'imaginer qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui regrouperait département par département à minima en disant voilà comment ça marche, voilà ce qui est plus facile pour vous, voilà ce à quoi vous avez accès. Comment se fait-il que ça n'existe pas ?
Alors, je pense que Martine fait référence à la notion, à la nécessité d'un guichet, ce qu'on appelle un guichet unique, que ce soit via le numérique
ou une plateforme, effectivement.
Ou une plateforme, effectivement.
Sur son département. Alors,
exactement. Le député, donc Adrien Taquet, a produit un rapport. Là pour le coup qui a été plutôt applaudi concernant la simplification administrative concernant les personnes en situation en situation de handicap. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de concentration de l'information qui puisse bénéficier à l'ensemble. Et il y a un autre sujet qui est lié plutôt à la fracture numérique qui peut venir accentuer le décalage et l'accès à l'information. Donc effectivement sachant que aujourd'hui, on peut très clairement dire que les nouvelles technologies peuvent améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on travaille de plus en plus, notamment à APF France Handicap, on travaille sur la notion d'expertise d'usage. C'est-à-dire que la personne en situation de handicap a une connaissance de ses besoins et peut être en amont des nouvelles d'un projet concernant des nouvelles technologies. Donc il faut faire le lien entre le besoin d'information et l'accès à cette information en réduisant au maximum la fracture, cette fameuse fracture numérique.
Patrick Goé là-dessus.
Eh bien, je voudrais faire écho à trois choses. La première, c'est notre interlocutrice nous a parlé de la sensibilisation de la société.
Ouais.
Ce qu'il faut vraiment expliquer à chacune et à chacun, et ça, les pouvoirs publics doivent le faire, c'est que chaque fois que l'on fait quelque chose en direction des personnes en situation de handicap, on améliore la vie de tout le monde.
Mmh.
Vous prenez un exemple, le bus, quand il y a un plan incliné pour pouvoir accéder au bus, c'est 20% de personnes handicapées qui l'utilisent. Les 80 autres pourcents, ce sont des mamans ou des papas d'ailleurs qui poussent une poussette, qui tirent un caddie.
Mmh.
Ça c'est une première chose très importante. Deuxièmement, je fais écho à ce que disait Prosper sur la nécessité d'une simplification administrative doublée d'une plateforme d'information. Et à cet égard, il conviendrait de travailler sur le sujet avec les fameuses maisons départementales des personnes handicapées.
Mmh.
Il y en a une par département. Elles ne sont pas uniquement prestataires de réponse. Il faut aussi qu'elles soient source de mobilisation et d'information. Enfin, sur ce que Prosper vient de dire, j'attire l'attention sur une chose. La numérisation, oui. Attention à la dématérialisation systématique des procédures.
Mmh.
Le défenseur vient de rendre public un rapport très important sur le sujet, sur la dématérialisation. Il faut que, a fortiori pour une personne en difficulté ayant un handicap, il faut que nous ayons des interlocuteurs à qui on puisse poser des questions, à qui on puisse demander des précisions, à qui on puisse demander des réponses. C'est fondamental. Et de la part du défenseur des droits, c'est une véritable alerte qui a été prononcée là-dessus.
Tiens, un message positif, parce qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup ce soir, celui de Sandrine qui dit qu'elle est enseignante dans une école d'ingénieurs publics à Toulouse. Elle dit « Nous accueillons des étudiants handicapés, certains en fauteuil roulant, ascenseur ou pas, c'est un vrai débat, et nous organisons donc lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur ou lorsqu'il y a un problème pour faire des cours au rez-de-chaussée. » Voilà, c'est simple. Et c'est vrai que parfois c'est tellement simple,
oui,
en fait.
Oui.
On a aussi, parce qu'on va parler évidemment de transport, ça vient dans les questions. Au Japon, nous dit cet interlocuteur, il y a un accès handicapé dans les transports en commun et juste que dans les trains, je crois que les chiffres sont édifiants, 88% des transports sont accessibles au Japon. On en est à 3%.
Oui.
Et quand je lis ça, Prosper Teboul, je suis un peu désespéré de mon propre pays quand même.
Oh, vous avez le désespoir, jamais beaucoup servi, mais effectivement...
Mais c'est marrant parce que cette carte, là, vous êtes en train de déplier une carte de métro. La dernière fois qu'on a fait un téléphone sonne sur ce sujet, on l'a vu aussi. C'était la même, et c'était peut-être il y a 2 ans, ou l'année dernière en tout cas.
Donc on
il
n'y
en
a
qu'une des lignes, hein, c'est pas la peine d'aller chercher.
On a conduit effectivement une opération... Opération clin d'œil et
ouais.
Avec beaucoup d'humour.
Mais
hein.
ça parle.
Mais,
tout
mais
à fait.
Ça parle tout simplement parce qu'effectivement, on a comparé l'accessibilité du métro de Londres, de Barcelone, de Tokyo. Londres, c'est 18%, sachant que le maire de Londres s'est engagé à 2022 ou 2024 à aller jusqu'à 30%.
Mm-hmm.
Barcelone, c'est 82% et Tokyo, c'est 88%. Vous l'avez rappelé.
Mm-hmm.
Lorsqu'on parle des 3%. Parisiens, c'est vrai que ça fait frémir.
Paris, sinon, quand même.
Ça fait frémir. Et lorsqu'on on en discute, effectivement, on nous a toujours dit que le métro parisien est ancien et très profond. Le métro de Londres est aussi ancien et un petit peu plus profond. Donc effectivement, il y a un vrai souci et c'est caricatural. Donc on ne va pas réduire la problématique des transports et l'accessibilité au métro parisien. C'est bien plus large, sachant que l'accessibilité c'est la clé
mais
pour,
par exemple,
pour aller au travail,
ouais,
c'est la clé
absolument.
Pour aller chercher son pain
et pour aller chercher du boulot aussi, d'où
dans
ces
la boulangerie, etc.
On parle de métro. Qu'est-ce que ça dit sur les bus, par exemple? Parce que moi j'ai l'impression qu'un bus c'est une plateforme. Est-ce que c'est si compliqué que ça.
Pour adapter le même système.
Ouais, pour avoir un système de plateforme, pour pouvoir faire monter un fauteuil roulant.
Au niveau du métro.
Mais
il faut y aller dans le métro.
Oui, dans le métro, il faut y aller. Mais est-ce que les bus sont plus accessibles?
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que le réseau bus
oui.
à Paris notamment et en France fonctionne très bien?
Tout à fait.
Mais attention. Il y a un projet de loi mobilité qui est en cours de discussion au Parlement. il faut faire très attention à ce que, précisément, l'axe central de ce texte soit de rendre les transports accessibles à tous les gens qui ont des difficultés pour y accéder. Il ne faut pas que l'on ait sur la mobilité la même déception que ce que l'on a eu sur le logement. L'année dernière, c'était le logement.
On va en parler.
il faudra qu'on en parle. Il faut faire vraiment très attention.
Hein. Bah tiens, puisqu'on parle...
Puisqu'on parle de loi,
allez-y.
J'invite les auditeurs à prendre connaissance de l'avis que nous avons rendu sur le projet de loi mobilité. Il est accessible sur notre site et il met en exergue les insuffisances du projet.
Tiens, puisqu'on parle de logement, je voudrais qu'on écoute Lionel. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
On vous écoute Lionel, allez-y.
Eh bien, écoutez, j'habite Reims, un appartement, j'ai envie de dire, pseudo-handicapé pour personnes handicapées et personnes âgées. Par exemple, les deux portes d'entrée sont tellement lourdes que je dois attendre que quelqu'un arrive pour pouvoir rentrer chez moi.
C'est fréquent, ça. Alors, pseudo, ça veut dire quoi d'ailleurs? Parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que ça veut dire qu'une fois que vous êtes entré, il se passe des choses. J'ai l'impression qu'une fois que vous êtes entré, vous pouvez fonctionner à peu près correctement, sauf que vous n'arrivez pas à rentrer. Ce qui est quand même un truc de fou quand on y songe.
Oui. Oui, parce que vous mettez le badge, mais le temps qu'on arrive avec le fauteuil roulant pour ouvrir la porte, ben, elle est déjà refermée.
Et ça, c'est fou. Merci beaucoup, Lionel Prosper Teboul ou Patrick Goé, l'un ou l'autre.
Il y a plein d'autres choses. J'entendais le monsieur qui parlait de projet, etc. Il n'y a pas de projet, il ne faut pas dire des mensonges. On a vu la loi de 2005 qui devait être appliquée en 2015 pour les accessibilités. Voilà. Il n'y a rien qui s'est fait, le gouvernement l'a reculé depuis 10 ans. Les bus sont à Paris, oui. À Reims, on a dû faire des remerciements à la mairie de Reims pour les avoir adaptés. Vous voyez un peu le remerciement. Et moi, j'ai la chance d'avoir une bonne retraite. Donc, je suis bien équipé. Mais il faut payer toujours, toujours, toujours. J'ai un fauteuil roulant de 2800 euros, remboursé 600.
Ouais, merci beaucoup.
Ah oui, parce qu'il est léger.
Et c'est fou, hein. On a l'impression, quand on écoute le journal, bah oui, mais c'est du confort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Donc, voilà, du c'est coup, ça, je pourrais en parler toute une journée complète.
On imagine bien, Lionel, merci beaucoup. C'est un exemple type, celui de Lionel Prosper Teboul.
Oui,
effectivement,
oui.
L'immeuble est adapté, oui. Il peut circuler dans les couloirs probablement, il peut rentrer chez lui, la porte est trop lourde, mais franchement...
Ça veut dire que c'est tout l'environnement qu'on doit embrasser, c'est pas simplement... on peut avoir un logement extrêmement accessible, mais si on au niveau de l'environnement, ça ne l'est pas. Bien évidemment, ça met tout en l'air. Effectivement, on a fait référence tout à l'heure à la loi Elan.
Ouais.
Donc la loi Elan, ça fait partie de nos revendications aujourd'hui. On a régressé.
C'était 100% des immeubles neufs accessibles, on est tombé à 20%.
On est tombé à 20%. Parallèlement à cela, il y a une politique que l'on approuve totalement de la part de la ministre Agnès Buzyn en matière de mieux vieillir chez soi et plus longtemps et de virages ambulatoires et de la part de la secrétaire d'État donc Sophie Cluzel de transition inclusive donc de désinstitutionnalisation pour aller vers le milieu ordinaire. On applaudit ces deux grosses tendances. Sauf qu'il y a une sacrée contradiction entre les tendances affichées et pour lesquelles on est vraiment partie prenante, et puis une loi Elan qui rend moins accessibles les logements. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est en décalage. Donc vraiment, ça fait partie de nos revendications, alors qu'on a obtenu également, et je pense que pour le coup le gouvernement, Sophie Cluzel en particulier, a bien aussi motivé le fait qu'on ait l'ascenseur pour le niveau R+3. Voilà.
C'est en décalage avec un engagement international que la France a pris.
Mm-hmm.
Il s'agit de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Alors, si j'en parle, c'est parce que le défenseur des droits, c'est l'institution qui a été choisie pour suivre la mise en œuvre de cette convention.
Il y a une question dans ce sens qui dit d'ailleurs pourquoi est-ce que l'Europe ne condamne pas la France pour non-respect de cette convention, par exemple.
Alors, je ne sais pas quelle procédure il faudrait utiliser pour que ce soit l'Europe qui condamne la France. L'Europe vient d'adopter un texte sur l'accessibilité, d'ailleurs récemment, un texte qui a pour vocation d'inspirer toutes les politiques publiques en matière de handicap. Et c'est un texte, c'est un texte positif. Mais il n'y a pas que sur l'accessibilité que la France est en contradiction avec les engagements qu'elle a pu prendre. Il y a bien d'autres domaines aussi que sans doute nos auditeurs mettront sur la table.
Enfin, pardon d'être totalement naïf, je repense au témoignage de Lionel, mais qui construit ces immeubles? Non, mais sérieusement, quand on décide de faire un immeuble purement accessible, qui imagine qu'on pourra pousser cette porte parce qu'elle est trop longue ou parce que le bip d'entrée est trop loin pour un fauteuil? Enfin, je veux dire, au moment où on ouvre les portes de cet immeuble et on sait qu'il va y avoir des gens en situation de handicap, comment c'est possible même que ça existe, en fait? Pardon, Prosper Teboul, mais comment c'est possible?
Ah, écoutez, on fait le constat aussi amer que vous, à savoir qu'effectivement ça existe. Il faut, je crois il me semble que c'est Martine qui l'a peut-être précisé tout à l'heure. Lorsqu'on construit un logement accessible, on ne construit pas, comme on peut l'entendre quelquefois, uniquement pour 10% de la population qui est en situation de handicap, mais on construit cette accessibilité pour les personnes âgées, pour vous allez au ski, vous pouvez avoir, c'est pas ce que je vous souhaite, mais une jambe cassée, vous allez être très contente d'avoir une salle de bain totalement accessible.
C'est un cas d'école que nous livre Gauthier sur France Inter. L'agence Crédit Lyonnais de ma petite ville vient d'être refaite. Un mois de travaux. L'accès depuis la rue se fait désormais par deux marches d'escalier. Qui n'a pas fait son travail, dit-il? Est-ce que c'est le Crédit Lyonnais ou est-ce que c'est la mairie? Dans ces cas-là, on se retourne vers qui quand on est Gauthier? Qu'est-ce qu'on dit?
Alors, on est en plein dans la question qu'un de vos auditeurs évoquait tout à l'heure, à savoir les ADAP et les agendas d'accessibilité programmés. Effectivement, 2015 aurait dû être la date, le grand soir, à savoir tout est accessible, ça a été reculé. Aujourd'hui, on est en 2019 et on n'a toujours pas le bilan des ADAP. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une plus grande propension des pouvoirs publics à accorder des dérogations que à rendre obligatoires ces agendas d'accessibilité, notamment pour les établissements recevant du public. On est complètement dans ce cas. Il y a des pharmacies qui ne sont absolument pas accessibles. Des pharmacies, on peut dire une boulangerie, même si c'est scandaleux.
Des cabinets de docteurs.
Exactement, des lieux de soins qui ne sont pas accessibles. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'incohérent.
Éric, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir
Eric.
À tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous appelais pour vous parler du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, j'ai 30 ans et je vais être licencié pour inaptitude alors que je suis apte à travailler. Seulement, mon employeur a refusé d'aménager mon poste de travail. Ça va faire 3 ans que je suis atteint d'une sclérose en plaques et depuis, je me bats pour avoir le droit de travailler, sauf que maintenant c'est terminé, puisque la sécurité sociale m'a déclaré en invalidité de catégorie 2. Voilà.
Et ça veut dire que donc vous allez être licencié. Alors, le motif, qu'est-ce qui a marqué sur votre motif de licenciement?
Alors pour l'instant, je ne le sais pas forcément, mais je sais que ce sera un licenciement pour inaptitude au mois de juin. Voilà, alors que je suis apte, seulement mon employeur a refusé d'aménager mon poste de travail. Et ce qui m'a entraîné dans une lourde dépression, des troubles anxieux.
Ce qu'on veut bien entendre, Eric, évidemment, qu'est-ce qu'on peut répondre à Eric? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? C'est au défenseur des droits que je m'adresse.
Ce que j'invite Eric à faire, c'est à nous saisir. Il faut qu'il nous saisisse. Parce qu'effectivement. Et alors, en plus, le cas qu'il est en train de nous soumettre, c'est un cas très répandu. Dans les saisines qui nous parviennent et qui concernent les personnes en situation de handicap, c'est beaucoup sur l'emploi, c'est beaucoup sur l'accès, le maintien, l'évolution de carrière et l'aménagement du poste de travail. Donc vraiment, je l'invite à nous saisir.
Éric, alors, allez-y.
Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, j'ai saisi effectivement le défenseur des droits, j'ai saisi l'inspection du travail, et qui travaille main dans la main. Mais malheureusement, quand l'employeur refuse d'aménager le poste, c'est terminé. Malheureusement, c'est terminé. J'ai 30 ans. Ça fait seulement 3 ans que j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques. Voilà, je suis apte à travailler.
On va vous donner mes coordonnées. Et puis, on va échanger là-dessus. Dès demain, si je peux avoir vos coordonnées, on échange là-dessus.
Eh ben, vous allez les laisser, Eric, et on les donnera à Patrick Goé tout à l'heure. Bonsoir, Philippe.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Philippe.
Eh bien, oui, je voulais juste déjà vous remercier. Et puis, simplement, je voulais dire que le candidat qui est maintenant président, mais le candidat Macron avait bien précisé dans sa campagne qu'il mettrait 100 euros à terme pour les handicapés, pour les handicapés. Et moi, je suis handicapé depuis 2009. J'ai été reconnu handicapé 3 ans et demi après seulement avoir contracté ma maladie, quoi. Et j'avoue que vivre... Avant, j'avais un rythme de vie qui était nettement supérieur. Mmh. Maintenant, j'ai un rythme de vie qui était de 817 euros l'an dernier ou il y a 2 ans, et puis qui maintenant va passer à 900 euros, quoi, d'après ce que j'ai compris. Et je vois le regard des gens par rapport à mon entourage. Et j'entends souvent, vous plaignez pas, quoi, les handicapés, vous plaignez pas par rapport à tous les gens qui sont comme les retraités qui ont très très peu de retraite, etc. Et je trouve que on n'est pas, les gens se rendent pas compte, quoi. De passer de 2-3 000 euros, parce que moi je gagnais bien ma vie, j'étais plombier chauffagiste, je gagnais bien ma vie, quoi. Et de passer d'un seul coup à 800 euros, on est plus... Moi, j'habite maintenant chez ma mère, je peux rien faire, je suis bloqué, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus rien. Et il faut que je ferme ma bouche, quoi, par rapport au village. J'habite dans un petit village... Il faut que je ferme ma bouche, parce que sinon, les autres me disent « Mais attends, toi, t'es privilégié, toi, t'as été augmenté de 100 euros, là. »
Merci pour ce témoignage, Philippe Prosper Thébault. Vous voyez faire oui avec la tête, parce que c'est des situations que vous connaissez.
Bien évidemment.
De quoi tu te plains, franchement?
Oui, ça c'est insupportable, et je le reprendrai pas. Mais effectivement, quelquefois, c'est dans l'air. 82%, on l'a dit tout à l'heure, des personnes en situation de handicap déclarent ne pas s'en sortir. Il faut savoir que même à 900 euros, si ça a été une mesure qu'on a vraiment appréciée, malgré ce que j'ai pu dire aussi tout à l'heure sur les restrictions, eh bien, ça demeure en deçà du seuil de pauvreté. Donc effectivement, dire que quelqu'un, même s'il a une augmentation de 90 euros sur 2 ans, ça n'en fait pas quelqu'un qui est riche, hein, 900 euros. Ouais. Le seuil de pauvreté, c'est un petit peu plus de 1000 euros. Donc nous demandons vraiment la création d'un revenu individuel d'existence, pour notamment toutes les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler. On peut reparler tout à l'heure de l'emploi, des mesures pour favoriser. Et qui est différent, j'insiste très lourdement là-dessus, c'est différent du revenu universel d'activité, ce qu'on appelle le RUA. D'accord ? Ce n'est pas, on considère que l'AH n'est pas, ou ce revenu individuel d'existence n'est pas un minimum social.
Deux témoignages avant d'écouter peut-être dans un instant celui d'Isabelle, celui de cette dame qui nous écrit sur franceinter.fr et qui nous dit je suis père d'une petite fille de 25 ans qui est trisomique. C'est le parcours du combattant pour obtenir une prise en charge légitime. C'était le cas quand elle est née, et 25 ans plus tard, la situation n'a pas changé. La loi de 2005, nous dit-il, n'a pas été respectée. Un autre témoignage qui nous vient: mon fils est autiste, le directeur de son école élémentaire considère que c'est à cause des associations de parents que les autistes sont à l'école et qu'ils ne devraient pas être à l'école. J'imagine qu'on entend encore des choses comme ça. Il a refusé que la maîtresse se fasse former à la différence de mon fils. L'inclusion à l'école est loin d'être effective dans la réalité. Je voudrais qu'on enchaîne avec Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
On vous écoute Isabelle, allez-y.
Bonsoir, je suis la maman, moi, d'une jeune femme de 20 ans maintenant, qui est handicapée de naissance avec une hémiplégie, et donc handicap physique. Et je voulais témoigner de mon désarroi, de mon mécontentement finalement dans le traitement qu'elle reçoit en tant que jeune adulte. Elle est enregistrée à la MDPH, la maison départementale du handicap, hein, il y en a partout. J'ai toujours pensé que ces MDPH devaient être là pour aider les personnes handicapées. Et en fait, à 20 ans, eh bien, quand elle fait les démarches pour être reconnue adulte handicapée, elle ne peut plus être reçue, elle ne peut plus être accompagnée dans ces démarches. Elle ne peut plus être reçue, y compris par les médecins, dans les visites, alors qu'elle le souhaiterait. Et il faut faire appel. Pour être accompagné, pour avoir le droit d'être accompagné, il faut faire appel. Donc on est déjà dans une démarche de revendiquer ses droits. Là où je pense que les MDPH, elles devraient être là pour aller vers les handicapés qu'elles connaissent, parce qu'ils sont enregistrés. Et c'est ces maisons du handicap qui devraient expliquer ce que l'on peut faire, ce qu'il existe. En fait, c'est un parcours du combattant toute sa vie quand on est handicapé, parce que rien n'est fait pour venir vers vous, pour vous aider. Merci vous beaucoup. Êtes toujours revendiqué.
Merci beaucoup Isabelle, et c'est aussi le sens de la question de cette jeune mère juste avant. Il faut demander, il faut aller chercher pour avoir un auxiliaire de vie, pour que les instituts soient formés. Là pour Isabelle, pour accompagner sa fille qui a 20 ans et qui a besoin aussi d'être accompagnée, Patrick Goé là-dessus.
Les témoignages que l'on vient d'entendre sont essentiels. Moi je voudrais apporter deux éléments de réponse. Premièrement, pour la première des interventions de ce monsieur qui nous dit « finalement je suis ignoré, on ne me comprend pas, etc. etc. » Je pense qu'il est urgent, à nouveau, de mener une action de sensibilisation sur la question du handicap. Et une action de sensibilisation positive, à la fois autour des personnes concernées et autour des responsabilités de la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'évocation des maisons départementales des personnes handicapées. Il est clair que par rapport au projet que nous avions en créant ces maisons, moi j'étais à l'époque délégué interministériel aux personnes handicapées, on s'en est éloigné, il y a trop de procédures, c'est trop compliqué, il faut simplifier les choses et il faut écouter les choses. Et dans les procédures actuelles, les MDPH n'ont pas les moyens ou pas suffisamment la volonté de le faire. Ça, c'est essentiel.
Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai juste une toute petite question subsidiaire parce qu'on a fini. Je voudrais savoir si, au fond, ces JO de 2024 qui vont venir, ça va pas vous rendre service. Parce qu'il va y avoir des jeux handisport aussi et il y en aura des fauteuils, il y en aura des personnes en situation de handicap.
Alors, oui, ça peut. Mais on n'est pas dans la pensée magique. Ça va pas arriver, ça va pas arriver tout seul. Donc, on a l'exemple très clair de Londres, des JO de Londres de 2012, où la dynamique autour des Jeux paralympiques a vraiment entraîné une mise en, une sensibilisation déjà des publics et une mise en accessibilité de bon nombre d'infrastructures. Et ça, c'est exemplaire et je pense que la secrétaire d'État Sophie Cluzel est totalement sensibilisée à cette dynamique-là.
Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, merci à tous encore une fois pour vos nombreux appels comme d'habitude et portez-vous bien.